Jusqu'à 20h sur Europe 1, vous écoutez Thierry Dagiral, c'est votre grand journal du soir avec le programme de la prochaine heure, Thierry.
Avec les nouveaux rendez-vous de ce 18-20 d'été, après le journal, nous tirons un coup de chapeau à ceux qui s'engagent à des initiatives locales solidaires. 19h20, le monde d'après, on réfléchit ensemble à ce monde d'après Covid. On va parler ce soir travail et télétravail avec la philosophe Julia de Finesse. À 19h30, tube d'été, Angèle Châtelier va nous replonger dans ces tubes que l'on a tous en tête. Et puis, de 19h40 jusqu'à 20h, on part en balade Douce France. Balade dans nos régions, nous serons ce soir en Seine-Maritime, sur la côte d'Albâtre. Europe 1, tout l'été, avec plaisir bien sûr à vos côtés.
Votre grand journal du soir, Sébastien Krebs, Thierry Dagiral. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
La volonté de mon gouvernement est d'accélérer les moyens attribués à la justice.
Première visite au tribunal pour tenter de rassurer des magistrats quelque peu échaudés par la nomination d'Éric Dupond-Moretti, le garde des Sceaux accompagné par le Premier ministre, que vous avez entendu au tribunal de Bobigny.
Et pendant ce temps, place Beauvau, le ministre de l'Intérieur lui aussi joue l'apaisement. Gérald Darmanin a reçu les syndicats de policiers très remontés ces dernières semaines.
Nous serons à Bayonne, marche blanche ce soir en soutien aux conducteurs de bus agressés dimanche. 4 suspects ont été mis en examen et écroués.
Dans ce journal également, les transports d'Île-de-France en cessation de paiement, la région en appelle à l'État.
Et puis un menteur narcissique, un père dominateur au comportement tordu. Voici le portrait au vitriol de Donald Trump, dressé par sa propre nièce. Elle sort un livre.
La tendance météo à Nice.
Avec encore des nuages et de l'humidité demain sur le quart nord-nord-ouest. Partout ailleurs et surtout dans la moitié sud, le temps est très ensoleillé. Les températures sont en hausse. Il va faire chaud, très chaud demain.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Avec Thierry Dagiral et Sébastien Krebs.
Pour certains, c'était une déclaration de guerre. Un nommé l'avocat Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Le nouveau garde des Sceaux a mené ce soir sa première visite dans un tribunal à la rencontre des magistrats pour tenter d'arrondir les angles. Déplacement au palais de justice de Bobigny, aux côtés du Premier ministre Jean Castex. Pauline Jacquot, vous avez suivi cette visite avec ce message donc d'apaisement.
Oui, face au personnel de ce tribunal de Bobigny, face aux représentants des syndicats de la magistrature, le Premier ministre et le garde des Sceaux ont tenu à rassurer, à promettre que les problématiques rencontrées par la justice en ce moment sont comprises, qu'elles sont entendues. Pour Jean Castex, c'est une priorité pour son gouvernement.
La volonté de mon gouvernement est d'accélérer les moyens attribués à la justice. Il existe une loi de programmation votée par l'actuelle majorité et je vous annonce qu'à compter de 2021, nous allons en accélérer la réalisation.
Accélérer, donc accorder des moyens supplémentaires. Les avocats, les greffiers et les magistrats attendent ici des résultats. Une mise en acte indispensable, a dit à la sortie la représentante du premier syndicat de magistrats.
Pauline Jacquot en ligne du tribunal de Bobigny en Seine-Saint-Denis.
Le nouveau gouvernement qui a passé sa journée à répondre aux questions des députés et sénateurs avec parfois quelques échanges agités, notamment à l'Assemblée.
Tout sera mis sur la table. Le Premier ministre a mis les pieds dans le plat tout à l'heure évoquant la réforme des retraites, celle de l'assurance chômage, mais aussi le plan de relance. Les discussions avec les syndicats sont relancées. Dès demain, les partenaires sociaux plutôt hostiles à reparler des retraites seront reçus un par un à Matignon.
Et dans ce contexte social, la ministre en charge de l'industrie Agnès Pannier-Runacher dénonce dans un tweet le plan social chez Nokia qu'elle juge inacceptable en l'état.
Ouais, l'équipementier finlandais a prévu de supprimer 1200 emplois en France chez l'ancien Alcatel-Lucent qu'il avait racheté. Aujourd'hui, plusieurs milliers de salariés ont défilé à Paris. Manifestation conséquente aussi à Toulouse, des employés d'Airbus. Ils étaient environ 7000 au bord des pistes de l'aéroport de Blagnac.
Et notez que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, sera l'invité de la matinale d'Europe 1 demain 8h15 avec Pierre de Villeneuve.
Autre dossier délicat, celui de la police. Le nouveau ministre de l'Intérieur, aux petits soins pour tenter de renouer le dialogue après des semaines de tensions sur les méthodes d'interpellation. Ce soir, Gérald Darmanin a reçu les différents syndicats Place Beauvau. Écoutez à la sortie Yves Lefebvre, le secrétaire général d'unité SGP Police FO.
Le lendemain d'avoir été installé à Place Beauvau, il reçoit des organisations syndicales dans le périmètre police nationale. C'est déjà un point très très positif. Maintenant, on a bien compris qu'on avait affaire à un ministre qui va aller directement au but. Il veut améliorer le quotidien des policiers, donc on ne peut bien évidemment que s'associer à cette volonté d'améliorer le quotidien des policiers. On était aussi très clair, au-delà des mots d'amour, maintenant on veut des actes d'amour. Mais on ne lui vendra pas du sable au milieu du désert, donc on lui montrera des dossiers précis. Et prochain rendez-vous d'ici, on va dire, 2 à 3 semaines, ça démontre un ministre qui va avancer très très vite et on pourra s'y associer. Le discours est intéressant, le discours est encourageant. Mais comme je lui dis, aujourd'hui on est d'accord, aujourd'hui, mais peut-être que demain ou après-demain on ne le sera pas.
Yves Lefebvre du syndicat Unité SGP Police avec Salomé Legrand.
À Bayonne, après la très violente agression d'un chauffeur de bus dimanche soir, les quatre suspects ont été mis en examen.
Tous sont placés en détention provisoire, deux d'entre eux pour tentative de meurtre. Ils ont 22 et 23 ans. Stéphane Place, vous êtes notre envoyé spécial au Pays Basque. Ce soir, les proches de la victime, qui est toujours entre la vie et la mort, appellent à une marche blanche qui va commencer là dans les minutes qui viennent.
Oui, il y a déjà beaucoup de monde, des collègues du conducteur de bus, des habitants de l'agglomération bayonnaise aussi, tous vêtus de blanc, souvent une fleur à la main. Ils se retrouvent ici à l'arrêt Balichon, c'est là que Philippe Monguillot a été roué de coups dimanche. Quelques heures avant le drame, comme pratiquement tous les jours, Jean-Pierre, qui vit dans ce quartier, était monté à bord du trambus que conduisait ce quinquagénaire qu'il appréciait beaucoup.
C'était un ami à moi, je prends le bus depuis 30 ans à Bayonne. Je l'ai vu dimanche après-midi, il m'a amené à Biarritz, je l'ai recroisé. Quand je revu le Biarritz, et depuis je n'ai plus revu. Il se faisait respecter dans son travail, ce qui est normal. Philippe, voilà, c'est Philippe. C'est lamentable, c'est criminel. Il a manqué à sa famille, à sa femme, à ses trois filles, ou on va en France. Et là c'est Bayonne, là ça devient grave. Moi c'est tous les jours que je vois des incivilités. Les mecs ils payent pas, ils veulent pas payer un euro.
Des larmes dans les yeux, révoltés par cette agression, ces Bayonnais tiennent à témoigner leur solidarité en participant à cette marche blanche ce soir.
Par solidarité, parce que c'est des choses qui sont inadmissibles. Parce qu'on arrive à une société où c'est quand même... Dès qu'on vous demande une cigarette ou un truc, on vous la refuse, on vous fout un coup de poing dans la gueule. Alors.
Oui, que ça ne recommence pas, c'est tout. Il y en a assez, quoi.
Dans quelques minutes, autour des proches de la famille, cette marche blanche va prendre la direction de l'hôpital où a été pris en charge le conducteur agressé en état de mort cérébrale.
Stéphane Place, en direct de Bayonne pour Europe 1.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec Sébastien Krebs et Thierry Dagiral.
À suivre dans votre journal de 19h, les transports publics d'Île-de-France en cessation de paiement, la région en appelle à l'État.
Et puis on ira aux États-Unis où la propre nièce de Donald Trump sort un livre et dresse le portrait, selon elle, de l'homme le plus dangereux au monde.
Europe 1.
Et 19h08 sur Europe 1, la suite du journal. Sébastien Krebs, Thierry Dagiral.
Les transports publics d'Île-de-France en grande difficulté depuis le confinement. Pardon, moins de voyageurs, moins de tickets vendus. Et bien conséquence, les finances sont dans le rouge, Sébastien.
La présidente de la région, Valérie Pécresse, en appelle à l'aide de l'État. Aurélien Fleureau, elle déclare les transports franciliens en cessation de paiement. Ça veut dire qu'elle ne paye plus la SNCF et la RATP.
Oui, pas de versement en juillet pour les opérateurs, soit 400 millions d'euros. Décision entérinée aujourd'hui par le conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. Une manière de mettre la pression sur l'État sollicité depuis des semaines par les autorités régulatrices de transport de toutes les régions. Et pour Valérie Pécresse en Île-de-France, eh bien, le constat est simple. Elle estime avoir joué le jeu du service public assuré pendant la crise. Mais voilà, les recettes sont en chute libre, pertes estimées à 2,6 milliards d'euros au total. Et jusqu'ici, le gouvernement n'a promis qu'un effort de 425 millions d'euros. On est loin du compte, selon Île-de-France Mobilité. Une cessation de paiement qui va désormais peser sur la RATP et la SNCF. Pas de conséquences à court terme pour les voyageurs, mais les finances de la compagnie ferroviaire sont au plus bas, comme l'a indiqué ce matin son président Jean-Pierre Farandou.
Je rappelle que la SNCF a déjà perdu 4 milliards d'euros dans cette crise. On n'est pas, nous non plus, en très bonne situation financière. Voilà, donc les discussions sont engagées et j'espère que très rapidement, on saura trouver les voies et moyens d'une juste compensation des coûts que nous engageons pour assurer le service public en Île-de-France.
La SNCF et la RATP ont une trésorerie qui leur permet de voir venir, mais il faudra rapidement qu'une solution soit trouvée. Valérie Pécresse a demandé à être reçue au plus tôt par Jean Castex à Matignon.
Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. La Covid-19 n'a pas disparu en France au moment où le directeur général de la Santé alerte sur un risque de deuxième vague à l'automne. C'est cette fois le département de la Mayenne qui lance un dépistage massif face à l'accroissement de la circulation du virus. 300 000 personnes se verront proposer un test. Ce sera sur la base du volontariat.
Aux États-Unis, on a passé la barre des 3 millions de cas détectés.
Et on va terminer avec ce portrait au vitriol de Donald Trump, dressé par sa propre nièce, Marie Trump, la fille de son frère aîné. Elle publie un livre qui secoue à nouveau l'Amérique. Elle, qui est docteure en psychologie, décrit un homme menteur et narcissique. Loubna Anaki, vous êtes notre correspondante. Les premiers extraits publiés sont effarants.
Oui, et le titre lui-même annonce tout de suite la couleur. « Comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux du monde ?» Sur 240 pages, la nièce du président américain raconte la famille Trump qu'elle qualifie de dysfonctionnelle. Et y décrit, je cite, « les convoitises, les trahisons, les tensions fratricides entre son père et son oncle Donald. Un climat encouragé par le grand-père Trump, c'est pour plaire à ce père exigeant et dominateur que Donald Trump aurait, selon la psychologue de 55 ans, appris à mentir et à manipuler son entourage. » Entre secrets de famille et analyse psychologique du président, elle affirme que Donald Trump a détruit son père, mort des suites de son alcoolisme. « Je ne peux pas le laisser détruire mon pays », écrit-elle. Des révélations dénoncées par la Maison-Blanche qui parle de mensonges et d'allégations sans fondement. À 4 mois de la présidentielle, il est clair que le livre risque de faire du bruit. Il a d'ailleurs failli ne pas sortir. L'un des frères de Donald Trump a essayé de bloquer la publication en justice. Aujourd'hui, le livre est numéro 1 des ventes sur Amazon et devrait sortir en librairie le 14 juillet.
Lubna Anaki en ligne de New York pour Europe 1. Les sports avec un revenant sur les circuits de Formule 1. L'Espagnol Fernando Alonso, ça fait 2 ans qu'il avait lâché le volant de sa monoplace. Il va faire son retour l'année prochaine chez Renault, l'écurie qu'il avait fait gagner 2 titres de champion du monde.
C'était le journal de Sébastien Krebs. Retour de Sébastien à 19h30 pour le rappel des titres. Merci.
Et tous les soirs à la fin du journal de 19h, nouveau rendez-vous cet été. Ça s'appelle La Bonne Idée. C'est avec vous, Thierry Dagiral.
Et on va tirer un gros coup de chapeau à une initiative, à ceux qui, après cette crise que l'on a tous traversée, bien se mobilisent et innovent. Bonsoir, Jean-Philippe Assensi.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Agence pour l'éducation par le sport. Vous lancez demain à 3 le Tour de France pour l'emploi des jeunes par le sport. Kézako.
Eh bien écoutez, l'idée c'est de créer un grand mouvement populaire pour l'emploi des jeunes. On sait qu'on va avoir des chiffres du chômage qui vont être catastrophiques. Donc en partenariat avec l'Association des maires de France et son président François Baroin, on a décidé d'agir. Et dans une 30aine de villes, et on démarre demain, on va proposer aux jeunes, à 100aine de jeunes, d'identifier leurs compétences par le sport.
Ça va se passer comment, Jean-Philippe Assensi?
Très simplement, à 10h30, on a 100aine de jeunes qui ont été repérés par les clubs sportifs qui cherchent du travail. Et on va détecter l'entraide, leur capacité de leader. Vous savez, le sport, c'est apprendre à travailler collectivement, apprendre à se fixer des objectifs. Et l'idée, c'est d'identifier les compétences par le sport et de mettre en relation ces jeunes avec les entreprises. Et on dit aux entreprises, il y a un talent incroyable dans ces quartiers, il faut recruter différemment. Et notre idée, c'est de recruter sur les savoir-être, beaucoup plus que sur le diplôme.
Mais ça veut dire qu'il y aura des recruteurs potentiels qui regarderont justement ces jeunes faire du sport ?
Cette première étape, c'est de recréer des ambiances localement, c'est-à-dire de mobiliser localement les services des sports, les pôles emploi, les centres sociaux, les clubs de sport. On va recréer une ambiance et dans un deuxième temps, on pourra parler emploi. Mais là, l'idée, c'est de retisser du lien entre des jeunes qui peuvent être un petit peu désespérés et des entreprises qui peuvent aussi accompagner, qui peuvent tutorer ces jeunes. Ouais. On va créer des ambiances, on veut créer un grand mouvement populaire c'est pour l'emploi des jeunes par le sport.
C'est bien, c'est une belle idée. C'est 3 donc demain, Torcy, 13 juillet, Roubaix, Mulhouse, il y a comme ça énormément de villes. Un site internet pour se renseigner?
Un site internet appels.org, une 30aine de dates avec aussi des grands champions. Gaël Ficou, Maillard Manchipour seront avec nous demain.
Bravo, bravo à vous Jean-Philippe Assensi, merci à vous. La météo merci. Tout de suite. Anissa, du grand soleil et des températures très chaudes dans le sud demain.
Oui, effectivement Thierry, au sud de la Loire, c'est l'été demain avec un ciel complètement dégagé, des températures toujours plus chaudes. Je vais vous les détailler dans un instant. Au nord de la Seine, en revanche, là c'est un autre scénario. De la Bretagne jusqu'à l'Alsace, le ciel est très couvert demain. Déjà aujourd'hui, hein, sur le nord-ouest, nous avions pas mal de nuages. Bah, il faut savoir qu'il y a une perturbation actuellement sur les îles britanniques. Cette perturbation, elle déborde un petit peu sur le nord-ouest du pays et elle donc nous demain. Apporte des nuages et des averses. Effectivement, alors ce sont des petites averses, notamment sur le Cotentin, où là, les nuages dans l'après-midi deviendront de plus en plus épais. Et puis sur la Picardie aussi, quelques gouttes. Sur le Grand Est et la région parisienne, demain, le temps sera nuageux. Mais rassurez-vous, il restera sec. Nous n'aurons pas d'averses dans l'après-midi. Les températures, elles sont en légère hausse demain matin, avec 11 à 16 degrés sur la moitié nord. 15 à 22 degrés au sud, avec déjà 22 degrés demain matin à Perpignan. Et alors dans l'après-midi, c'est toujours frais dans le nord et le nord-ouest, avec 18 à Boulogne-sur-Mer, 20 à Brest et Cherbourg, 22 à Saint-Brieuc et au Havre, 23 à Lille, 24 à Biarritz et ailleurs. Bah c'est l'été, écoutez bien, 26 à Charleville-Mézières et La Rochelle, 28 à Verdun, 30 degrés à Paris, Aurillac et Ajaccio, 32 pour Montluçon, Marseille et Limoges, 34 à Manosque et à Dijon, 35 à Valence, c'est Toulouse et Lyon. Je ne m'arrête pas là. 36 à Carcassonne et 37 la maximale pour Nîmes demain.
Merci Anissa.
Europe 1.
Votre grand journal du soir avec vous Thierry Dagiral et avec votre interview Le Monde d'après dans un instant.
Oui, on va imaginer ce monde qui change. On parlait hier d'écologie, on va parler du travail ce soir. Faut-il généraliser le télétravail? Je reçois la philosophe Julia De Funès sur Europe 1 dans un instant.
Europe 1.
Votre grand journal du soir se poursuit ce soir avec vous Thierry Dagiral et tous les soirs de l'été, on va prendre le temps de réfléchir à l'après. Vous recevrez des philosophes, des patrons, des économistes, des artistes pour tirer les leçons de cette crise sanitaire. Et ce soir, la philosophe et spécialiste en management Julia De Funès est votre invitée.
Bonsoir Julia. Bonsoir. De Funès. Il y a cette belle collection hein, Et après aux éditions de l'Observatoire et vous-même, vous venez de sortir cet essai « Ce qui changerait tout sans rien changer ». Vous consacrez un chapitre au travail. C'est la nature même du travail qui a changé pendant ce confinement. 40% des salariés ont exercé en télétravail pendant le confinement. Demain, selon vous, ça sera la norme ?
Oui, c'est clair que le télétravail va se généraliser, se banaliser. Il s'est déjà très clairement massifié. C'est pour ça que les phrases qu'on entendait, les injonctions avant durant le confinement qui consistaient à dire « rien ne changera », c'est faux. Les choses ont déjà changé, se sont inscrites dans la réalité autrement. Et le télétravail, pour moi, est une bonne chose pour plusieurs aspects. On va en discuter, même s'il y a des points de vigilance, évidemment, à remarquer. Et à souligner.
Sans aller aussi loin que PSA qui fait du télétravail sa norme, de nombreux grands groupes sont en ce moment en train de signer des accords d'entreprise. Ça veut dire qu'il faut vraiment réorganiser tout le travail, toute la chaîne du travail.
Oui, ce qui est très compliqué pour les entreprises aujourd'hui et leur questionnement principal, c'est justement à quel rythme, quelle hybridation est-il possible de trouver entre du télétravail et du présentiel, parce qu'il ne s'agit pas du tout de substituer le virtuel au présentiel, bien évidemment, mais de l'agencer au mieux pour qu'on ait les bienfaits des deux aspects.
Et c'est quoi la bonne formule alors?
Alors, il n'y a pas de formule. La mauvaise formule, c'est de chercher une formule, justement, c'est-à-dire une recette, parce que ça dépend tellement des fonctions, tellement des postes, tellement des cultures d'entreprise, du besoin aussi individuel de chacun, que je pense que c'est un ajustement. Et c'est pour ça que c'est très difficile comme questionnement, et c'est très difficile pour les managers, justement, et les dirigeants, de trouver l'ajustement parfait, parce que c'est au cas par cas, quasiment.
On ne risque pas, à terme, d'avoir une entreprise à deux vitesses avec les cadres, les cols blancs, en télétravail, et puis ceux qui ont besoin d'être en présentiel.
Oui, je vous remercie pour cette question, parce que c'est souvent une confusion qu'on fait. Et parce qu'effectivement, deux tiers des postes télétransposables en télétravail sont des postes de cadre. Et donc, le raisonnement facile consisterait à dire, en gros, le télétravail, c'est pour les riches et puis les plus modestes ne peuvent pas télétravailler. Ce qui est archi-faux. Vous pouvez prendre Mbappé, un pilote de ligne, un chirurgien esthétique, ils ne peuvent pas télétravailler, ce n'est pas les revenus les plus modestes. Et en revanche, une assistante, les téléconseillers ont même le mot télé dans leur fonction, peuvent très facilement télétravailler. Donc, ce qui est important pour le télétravail, c'est de voir qu'il provient d'inégalités sectorielle, d'inégalité de métier, de différence de métier, pas d'inégalité, de différence sectorielle, mais qu'il génère effectivement des inégalités sociales, qu'il amplifie certaines inégalités sociales.
Une chose est très claire pendant cette crise sanitaire, on a réfléchi, on a repensé le bureau, notre vision du bureau, notre fonctionnement au bureau.
On a repensé le fonctionnement bureau. Alors justement, on s'en rendait compte avant, mais que le présentiel ne garantit absolument pas d'un lien collectif, d'un lien entre collaborateurs très fort. Vous avez vu comment ça se passe dans les open space ou dans les flex office. Les gens ne se parlent pas forcément, de peur de déranger le voisin, et donc on s'envoie un mail quand bien même nous sommes à un mètre de distance. Donc on est en télétravail en présentiel. Moi, je pense au contraire qu'un des avantages du télétravail, c'est de rendre les relations réelles d'autant plus désirables et attendues qu'elles ont été virtualisées et suspendues par le télétravail. On a d'autant plus envie de retrouver les gens en vrai, en chair et en os, que justement on en a été privé. C'est vrai dans toutes les relations humaines. Hein. Prenez les relations amoureuses, c'est la même chose, mais Proust ne supporte plus Albertine quand il est avec elle, et puis dès qu'elle s'en va, évidemment, il la désire. Donc il y a une sorte d'attente qui est aussi propice à la ferveur des relations réelles. Mais ça a changé aussi la nature du travail, le sens du travail, le sens de l'entreprise. On change complètement de paradigme. Il y a des conséquences très fortes. C'est lourd de conséquences, le télétravail. Ce n'est pas simplement un agencement.
Ça veut dire que pour les managers, il a fallu repenser aussi la manière de gérer les équipes à distance, de mettre de l'humain également dedans. Parce qu'il y avait des moments où les gens en télétravail, le moral était en berne. Il fallait aussi avoir ce côté très humain qu'on n'a pas forcément au bureau.
Oui, alors si, il y a une injonction qui consistait à dire depuis des années, moi c'était une phrase qui commençait à m'écœurer un petit peu, parce qu'elle est très vraie, mais elle est galvaudée. L'important, c'est de mettre l'humain au centre, l'humain au cœur. L'entreprise ne serait rien sans les hommes et les femmes qui la constituent. C'est évidemment vrai. Simplement pour moi, ça veut dire quoi mettre l'humain au centre ? C'est pas simplement dire ces beaux mots. C'est de miser sur nos compétences strictement humaines. L'intuition, la prise de risque, les relations, les choses totalement irrationnelles qui ne passent pas à travers les écrans, justement. Et c'est miser sur ça, à l'heure de l'intelligence artificielle, de la robotisation, de la digitalisation, si on ne mise pas sur ce qu'on a de spécifiquement humain, effectivement, alors là, on est déjà évidemment très dépassé.
Est-ce que ce n'est pas la fin de la culture d'entreprise, finalement ? Comment on peut créer une culture d'entreprise quand on travaille à distance ?
Oui, c'est pas la fin de la culture d'entreprise, mais le changement de paradigme me semble être le suivant. C'est-à-dire que je vais parler de façon générationnelle, ce qui est toujours faux, mais pour être synthétique et rapide, en gros, j'ai 40 ans pour ma génération et les précédentes. Aller dans une grande entreprise, un grand nom, ça suffisait à faire sens. On travaillait à Europe, c'était déjà formidable. On travaillait à Air France, ça faisait déjà sens.
Ça n'existe plus pour la jeune génération, ce que vous dites.
C'est nécessaire, mais c'est plus suffisant. C'est-à-dire que l'entreprise, ce qui va faire la différence, pourquoi je vais aller bosser dans cette boîte-là plutôt que dans telle autre, c'est parce que l'entreprise n'est qu'un moyen au service d'une cause plus vaste qu'elle-même. C'est-à-dire que la performance financière et économique de l'entreprise est nécessaire, bien sûr, mais n'est plus suffisante. Le nom n'est plus suffisant. Il faut qu'elle réponde, l'entreprise, à une raison sociale, sociétale, environnementale, humanitaire. Quel est un sens, c'est-à-dire une finalité autre, plus vaste, extérieure à elle-même, pour que les gens, les plus jeunes, soient attirés et aient envie d'aller travailler dedans.
Mais il y a cette fierté, on est fier, je suis fier de travailler aujourd'hui à Europe 1.
Oui.
Je défends les couleurs d'Europe 1.
C'est... Oui.
Je parle avec mes collègues, il y a une transmission de pensée, d'échange, de vie à côté, etc.
C'est vrai.
C'est ce qui fait cette culture d'entreprise.
Mais la fierté
ça existe
change,
encore
bien sûr,
des
la fierté d'entreprise, la fierté existe, mais elle change d'objet. C'est plus tellement la fierté d'entreprise, c'est la fierté d'une cause. La fierté de contribuer à un projet qui fasse sens. Vous avez vu à quel point il y a des gens qui ont des très belles fonctions, des très beaux diplômes, qui quittent tout pour faire des métiers, soit relationnels, soit humanitaires, sociaux, enfin tout ce que vous voulez, mais où on voit l'impact qu'on a sur le monde. Beaucoup de gens ont souffert en entreprise, surtout dans les grandes, de ne plus se sentir sujet actif, de maîtriser, d'être l'auteur, l'acteur de leur vie. Et quand on répond à un sens tel que ceux que j'ai évoqués, effectivement, on a l'impression de contribuer à quelque chose de réel, à être vraiment l'auteur, l'acteur de sa vie.
Juliette de Finesse, pendant le confinement, on a vu aussi que ce télétravail est une source de détresse psychologique. Ça veut dire que l'autonomie, ça s'apprend. Ça veut dire qu'il faudra aussi pour les DRH montrer l'exemple,
oui,
apprendre, faire des formations, pourquoi pas.
Alors l'autonomie, ça s'apprend, c'est un oxymore parce que comment voulez-vous apprendre à être seul ? Mais oui, non, ça, il y a une autodiscipline qui est très difficile à tenir et on l'a vu. Alors en temps de confinement, c'était amplifié, mais il y a une autodiscipline à avoir qui n'est pas évidente pour toutes les psychologies. Et le management va devoir non pas apprendre l'autonomie, mais faire confiance, c'est-à-dire oui, laisser l'autre autonome et lâcher prise. Et là, on va devoir passer d'un management de contrôle à un management de confiance. Et les contrôles et confiance, quand bien même la phrase, la fameuse, très utile rhétoriquement, mais nulle philosophiquement, la confiance n'exclut pas le contrôle, est un paradoxe en nom. La confiance, vous savez, c'est un pari sur l'inconnu. Il y a le mot foi dans confiance. Cum fidere, avec foi, c'est-à-dire qu'on lâche prise, on fait un saut, on croit en l'autre ou on croit en soi-même. Et le contrôle, c'est évidemment l'inverse. On veut des preuves tangibles, on est dans le registre cognitif de la preuve. Donc on peut pas et lâcher et fermer les yeux et ouvrir les yeux. Il y a des phases de contrôle nécessaires, il y a des phases de confiance nécessaires, mais les deux de manière concomitante, c'est absolument impossible.
Demain, le télétravail avec Julia de Finesse. Merci infiniment
d'être venue
sur Europe 1. Merci.
Europe 1. À suivre Thierry Dagiral.
Restez avec nous 19h30, tube d'été. Retour sur ces morceaux qui nous ont marqués avec Angèle Châtelier. Et puis à 19h40, 12 France, on part en Seine-Maritime sur la côte d'Albâtre. À tout de suite.
Sur Europe 1, votre grand journal du soir, Thierry Dagiral.
Et c'est l'heure du rappel des titres, Sébastien Krebs.
La promesse de moyens pour la justice. Le Premier ministre Jean Castex promet d'accélérer. Il a rendu visite aux magistrats, greffiers et avocats du tribunal de Bobigny ce soir aux côtés du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti. Le gouvernement lance le bras de fer contre Nokia. Le plan social est inacceptable en l'état, estime la ministre en charge de l'industrie, Agnès Pannier-Runacher, après une rencontre avec les salariés. À retenir aussi ce soir, la Halle va pouvoir sauver les deux tiers de ses ses emplois. Le tribunal de commerce de Paris valide le projet du repreneur, le groupe Beaumanoir, qui conservera 2500 salariés et 366 magasins. Le secteur aérien, toujours durement touché. United pourrait licencier un tiers de ses effectifs, 36 000 personnes. En France, la low-cost Level, qui opérait depuis Orly, va cesser son activité. L'actualité judiciaire avec le trompettiste Ibrahim Malouf, condamné pour agression sexuelle sur mineur, qui a finalement été relaxé en appel. Et puis cet espoir dans la lutte contre le sida. Pour la première fois, un patient, un homme brésilien, est considéré guéri après un traitement aux antiviraux.
Merci beaucoup Sébastien, à demain.
À demain.
La météo des plages à Nice.
On va en Corse, comme promis Thierry, il y a une heure sur l'île de Beauté. Il fait très beau demain, avec dans le golfe de Saint-Florent, 30 degrés sur la plage, une eau à 25 et une mer calme.
Ça,
c'est quand même parfait, là on est quand même sur la perfection. Dans le sud de la Corse, la mer est ridée, sur la plage du Petit Spérone. Eh bien, près de Bonifacio, il fait 32 degrés sur le sable et 25 dans l'eau. Et puis, sur la mer du Nord et la Manche, de la pluie demain, de Brest à Dunkerque, avec cette perturbation qui traverse le nord et le nord-ouest du pays. Au Touquet Paris-Plage, nous aurons 18 degrés sur le sable sous la pluie, avec donc ces averses et une eau à 17, c'est très frais. À Saint-Malo, quelques rayons de soleil demain après-midi, 26 degrés sous le parasol et 19 dans l'eau avec un peu de vent. Profitez-en. Et votre grand journal du soir se poursuit jusqu'à 20h. Thierry Dagiral et place à la culture maintenant, avec autour de la table ce soir Diane Chénouda, Angèle Châtelier et Mathieu Charrier.
Et bonsoir à vous trois.
Bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Bonsoir Thierry, bonsoir à tous.
Et le rendez-vous juste après 19h30, c'est le tube de l'été.
Attention, préparez-vous, blind test.
La lambada.
Bien.
Je ne peux pas imaginer vos week-ends, Mathieu Charrier. La lambada.
Toute sa jeunesse.
12 semaines numéro 1 des ventes, tube de l'été 89. Et derrière se cache le groupe.
89 déjà.
Et oui, 89. Ouais. C'est le groupe Kaoma. Et puis Thierry, je suis sûre que vous vous souvenez de son clip Endiablé qui appelle à la chaleur des corps. Il y a des danses sensuelles.
Pourquoi moi
comme ça, juste comme ça. La chanson est un carton planétaire, plus d'un million d'exemplaires vendus. Mais Thierry, c'est un plagiat. La mélodie originale de la lambada, on la doit au groupe bolivien Los Kiarkias. C'est là le producteur Olivier Lorsa qui repère cette mélodie. Il est en voyage au Brésil, il se prélasse et il l'entend comme ça. Et on imagine qu'il se dit « Tiens, mais ça marcherait bien ça !» Alors sans rien dire à personne, il s'en accapare. Il la dépose à la Société des droits d'auteur, la SACEM. Puis il forme le groupe Kaoma. Tenez, écoutez la version originale. C'est moins dansant, mais
c'est
on entend.
Typique, quoi.
Voilà. On entend bien que la lambada version 89, la flûte de Pan, elle est remplacée par l'accordéon et les paroles traduites en portugais, et c'est tout. Mais alors, le succès est immédiat.
C'est dingue cette histoire. Et le groupe original, il s'en est aperçu du coup ?
Forcément, il n'aura pas fallu longtemps pour que le groupe réclame son dû.
J'imagine.
Un an, et c'est un scandale à l'époque de savoir que le tube de l'été n'a rien d'original. Il remporte plus d'un million d'euros de droits d'auteur, normal. Mais bon, le succès de la lambada a été tel que c'est bien la version Kaoma que nous fredonnons encore aujourd'hui, et qui a aussi été beaucoup reprise, comme par Jennifer Lopez en 2011, qui en a fait un hymne techno-électro. Vous avez aussi dansé là-dessus, Mathieu Charrier ?
Vous connaissez même pas.
Ah oui !
Ah, vous êtes trop vieux, moi.
Oui, moi j'ai passé beaucoup de soirées là-dessus. Alors l'histoire de ce tube de l'été 89, la lambada, se termine quand même d'une manière très noire et très morbide, hein, par l'assassinat de son interprète principal en 2017, dû à un cambriolage qui aurait mal tourné, mais elle laisse derrière elle l'une des chansons les plus vendues de tous les temps.
C'est qu'on se souvient, c'est tous les soirs après 19h30 avec Angèle Châtelier. Merci Angèle. Et tout l'été, Mathieu Charrier, oui. Vous nous conseillez de lire ou de relire les meilleures bandes dessinées sorties cette année. Et aujourd'hui, on parle de sacrées sorcières.
Vous avez peut-être été traumatisé dans votre enfance par la lecture de Sacrées sorcières de Roald Dahl autour de la table. Oui, non, personne. Très bien. Eh bien, imaginez, Pénélope Bagieux a donné vie au livre, mais en bande dessinée. C'est encore plus glaçant. Alors l'histoire, c'est celle de ce petit orphelin de 8 ans, élevé par sa grand-mère, qui lui donne tout l'amour qu'elle peut, une femme forte, on le sent, qui un soir décide de lui raconter la vraie histoire des sorcières qui ne seraient pas des êtres imaginés ou imaginaires, mais des créatures qui choisissent de prendre l'apparence des femmes pour tromper les enfants et les éradiquer de la surface de la Terre. Alors quand notre petit héros va se retrouver propulsé au milieu d'un congrès de sorcières dans un hôtel, ça va barder. Évidemment, en creux, comme souvent dans l'œuvre de Pénélope Bagieu, il y a un message sociétal.
Être à nouveau, Pénélope, 8 ans et demi, dans la maison de mes grands-parents, et à essayer de me rappeler ce qui m'avait terrifié, et ce qui me faisait rire.
Et depuis 8 ans, vous avez toujours peur des sorcières?
Non. Attends, j'ai compris que le problème, c'était pas les sorcières. J'ai compris que c'était une invention du patriarcat. C'est-à-dire que c'est quand même une invention qui a été faite pour trouver une façon de se débarrasser des femmes autonomes, érudites, qui n'avaient pas d'enfants. Voilà, donc on a dit, ah ben très bien, voilà, on va les brûler, ça va être plus simple. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que réécrire cette histoire qui a été écrite quand moi je suis née, avec un regard un petit peu différent sur tout ce que la mythologie des sorcières peut avoir de misogyne, c'était super intéressant à faire aussi. J'ai pas écrit les sorcières maintenant comme je les aurais écrites il y a 20 ans, quoi.
Et Bagieu réussit à restituer l'ambiance du livre de Roald Dahl, c'est toujours aussi terrifiant, c'est drôle. Avec ce graphisme de Pénélope Bagieu, je ne vous le décris pas, elle a vendu des millions d'albums de bandes dessinées à travers le monde. Donc voilà, c'est une des bonnes lectures familiales de l'été que vous pouvez lire en famille, vous pouvez lire à vos enfants, que vos enfants peuvent lire. Ça s'appelle Sacrée Sorcière et vous trouvez ça chez Gallimard BD.
Et c'est carré, c'est précis, c'est Mathieu Charrier, merci beaucoup. Diane Chinouda, on était avec vous hier à Avignon, direction Arles ce soir.
Oui, absolument. Alors Arles, normalement, chaque année, c'est bien sûr... Ce sont bien sûr les rencontres de la photo.
Exactement.
Mais malheureusement, cette année, pas de festival photo. Alors, voilà, Arles a imaginé un été culturel. La ville propose de multiples animations. Cet été, du cinéma en plein air, du théâtre de rue, de la musique, des concerts, dans les lieux mythiques de la ville, au théâtre antique, à l'archevêché, dans ces très belles églises également qui accueillent habituellement des expos photos. Alors, de la photo, il y en a quand même dans la trentaine de galeries d'art que compte la ville, au musée Réatou également, qu'on connaît bien, sur les bords de Rhône, et à la Fondation Van Gogh, de la photo et beaucoup d'art plastique. De la photo, il y en a aussi partout sur les murs de la ville, avec des clichés des grands photographes de mode, comme Sarah Moon. Les rues ont même été débaptisées du nom de ces artistes de mode.
Et Eliane, il y a beaucoup de projections sur les murs de la ville, hein?
Oui, la ville avec son dédale de ruelles est presque transformée en grand cinéma et théâtre de plein air avec des lectures partout dans la ville et des projections vidéo sur les murs, comme le confirme Françoise Pams de l'association Arles Été 2020.
Des projections sur les murs de sélections de vidéos d'artistes, mais aussi de vidéos des grandes expositions qui ont eu lieu dans les grands musées internationaux, sur toutes les rues, dans les rues d'Arles, avec des projections sur des draps, donc ça va être assez étonnant à voir. Il y a une vie nocturne très forte, puisque chaque habitant a laissé ses façades s'habiller de poèmes, de photos, de peintures. Et donc tout ça est extrêmement vivant et joyeux.
Voyez, Arles est encore bien animé cet été, il y aura de la danse aussi. C'est vraiment l'occasion de découvrir cette ville antique sur les bords du Rhône, moi que j'adore, avec ses échappées sur le fleuve. C'est vraiment très très beau, il y a une atmosphère à Arles qu'il n'y a pas ailleurs.
Merci beaucoup Diane, la culture qui se réinvente cet été et qu'on vous fait vivre bien sûr sur Europe 1. Mesdames, messieurs, à demain.
À demain.
À demain. Europe 1.
À suivre Thierry Dagiral.
Nouveau rendez-vous de ce 18-20 12 France avec Anissa, on vous emmène en vadrouille. Ce soir, on va prendre l'air en Seine-Maritime, sur la côte d'Albâtre exactement. Et figurez-vous qu'en ce moment, en studio, entre Anissa et moi, il y a un bar. Un poisson.
Un poisson, hein.
Voilà. On prend le large dans deux minutes sur Europe 1.
Et votre grand journal du soir en balade tout l'été jusqu'à 20h, Douce France, avec plein d'idées sorties, des visites, mais aussi des découvertes de produits régionaux. Et ce soir, Thierry Dagiral avec vous, nous sommes sur la côte d'Albâtre.
Oui, c'est la Haute-Normandie, en Seine-Maritime, 130 km de côte entre le Havre et le Tréport, avec de super paysages et des falaises. Le mieux, c'est de découvrir la côte depuis la mer. Bonsoir Stéphane Daudivert.
Bonsoir à tous, bonsoir à tous les auditeurs.
Vous êtes organisateur, oui très bien, nous ça va très bien, organisateur de balades nautiques en Normandie sur la côte d'Albâtre, votre société s'appelle La Mer pour Tous, on se balade donc avec vous, on est au départ de Fécamp, on va vers Étretat, c'est bien ça?
Oui tout à fait, on part sur Étretat, on va mettre 20 minutes à bord d'un bateau rapide de 10 mètres de long et de 14 places et arriver à Étretat, je vais vous faire découvrir des villages du littoral normand pendant lesquels on vivait, comment on vivait au XIe ou XIIe siècle, et notamment la découverte de l'Estran, sa faune, sa flore. Ensuite, on parlera des falaises, sa constitution, sa composition, son érosion. Et puis au retour, on s'arrêtera à des endroits mythiques comme le rocher Roquebeaudieu, où on pourra découvrir des espèces d'oiseaux comme le goéland argenté, protégé.
Des cormorants aussi
Oui, les cormorants marins qui sont aussi des espèces protégées sur la côte, ces oiseaux avec ces ailes ouvertes, parce qu'ils les font sécher pour réétanchifier leur plumage, c'est pas étanche à l'eau.
Stéphane, il y a aussi l'aiguille, la fameuse aiguille de Belval.
Oui, tout à fait. L'aiguille de Belval. Alors ça, c'est un pic rocheux qui est à 300 mètres du bord. Ouais. C'est au milieu du parc.
Au milieu, c'est ça.
C'est la position. Au milieu de la mer. Carrément au milieu de la mer. Ça, c'est un pic qui était...
C'est en face Bénouville, qui... c'est ça, hein?
C'est en face Bénouville. Bénouville, vous savez, c'est le village de Maurice Leblanc.
Exactement.
Celui qui a raconté l'histoire d'Arsène Lupin.
La terre natale d'Arsène Lupin, exactement.
Tout à fait. La particularité de cette aiguille de Belval, qui fait 33 mètres de haut, c'est que c'est un pic qui a été escaladé dans les années 80. À l'époque, c'était la mode de l'escalade sur le littoral. On a essayé comme ça de gravir cette falaise. Bien sûr, on n'y a jamais réussi. On a laissé tomber.
Et on peut y croiser, faut le dire, hein, des dauphins, des phoques également.
Alors ça, c'est épisodique, mais tout à fait. Hein. On y voit beaucoup de dauphins, de marsouins, de grands dauphins et de dauphins communs. Ça, c'est quelque chose qu'on arrive à observer maintenant tous les 5-6 jours. On en voit très régulièrement, de plus en plus, qu'est-ce qu'ils viennent manger, les poissons d'olive.
Merci beaucoup. Merci. Une belle balade à faire avec vous, Stéphane Dodiver. Grand merci à vous. Les prix, Anissa.
Alors, ça coûte 37 euros par adulte, 32 euros par enfant. Et si vous êtes plus de 8, vous pouvez faire un tarif de groupe.
Ouais.
L'excursion dure 2 heures. Et si vous avez envie de découvrir la côte d'Albâtre autrement, il y a aussi le vélo.
Le vélo, ouais.
Avec 325 km d'itinéraire cyclable à travers les paysages impressionnants de notre destination de ce soir. Depuis le haut des falaises de Cré des Trotas, de la côte d'Albâtre au méandre de la Seine. Sans oublier, bien sûr, et ça c'est magnifique, la traversée des champs de lin du pays de Caux et la verte boutonnière du pays de Bray. Donc vous pouvez opter pour le vélo aussi.
Alors on est à Étretat à présent avec Daria Vernon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la directrice des jardins d'Étretat, c'est bien ça?
Oui,
donc
c'est
on est quoi, au sommet des falaises d'Étretat?
Oui, elles sont situées juste au sommet des falaises d'Étretat, côté falaise d'Amont, à 2 pas de la chapelle Notre-Dame de la Garde, si vous connaissez.
Ouais.
Et oui, les jardins d'Étretat sont vraiment magnifiques, ils offrent une vue dégagée sur...
Et j'imagine la vue, c'est ça? Oui, oui. Décrivez-nous un peu la vue, là.
Et bien sûr, sur les falaises, c'est selon moi l'un des plus beaux points de vue sur la Porte d'Aval, une source d'inspiration pour le fameux Claude Monet.
Mmh.
Donc, les jardins de Tréta sont assez récents. Ils ont été créés
C'est quoi, 2017, c'est ça hein
2017, c'est bien ça, ouais. par un célèbre paysagiste russe qui s'appelle Alexandre Grifko.
Ouais. Et il y a plusieurs jardins, plusieurs ambiances, c'est ça?
Oui, exactement. En fait, le jardin est composé en 7 parties. Chaque partie a une ambiance particulière et des noms parlants. Par exemple, jardin Amont, jardin Zen, jardin Avatar, etc. etc. Donc, l'espace est composé de grandes compositions de végétaux taillés. Ils font écho au paysage, à la nature de la Normandie.
Mmh.
Et vous y verrez vraiment des plantes aux formes différentes, en forme des vagues de la Manche, par exemple, des spirales et des tourbillons marins, et même en forme des falaises et des arcs de la côte d'Albâtre.
Ouais. Et c'est de vos jardins en tout cas, cette vue a inspiré, on le sait, de nombreux peintres célèbres.
Oui, bien sûr, aussi célèbres que Claude Monet,
bien
Jean-Baptiste Canicoro, Jean Delacroix, Édouard Manet, Philippe Palédoff. Qui sait, peut-être vous allez retrouver votre génie au sein de la vous-même aussi.
Merci beaucoup Daria Vernon. Jardins d'Étretat, les tarifs, Anissa?
9 euros par adulte, et si vous êtes plus de 20 personnes, si vous y allez entre amis ou en famille, bien c'est 7 euros.
Alors, où dort-on ce soir? Une bonne idée avec vous, Philippe Viguet des Places du Figaro Magazine. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Thierry, alors je vous emmène au donjon en plein cœur d'Étretat, dans un ancien petit manoir d'opérette, vous savez ces belles villas qui ressemblent à des châteaux un peu néo-gothiques, très Second Empire, très Offenbach, perché au-dessus de la mer, dans un jardin planté de pins. On a vraiment une impression de Méditerranée alors qu'on est au bord de la Manche, c'est assez bluffant.
Ouais.
Il y a une très belle piscine qui domine la mer, le lieu est préservé, très calme, tout en étant dans Étretat, et les chambres sont réparties dans différents petits bâtiments. Voilà, c'est atypique et charmant.
Le prix, Philippe?
Alors, côté tarif, on est autour de 250 euros, 300 euros dans cette fourchette.
Merci beaucoup Philippe, à demain. On reste en Seine-Maritime avec dans un instant Des Saveurs et Marion Sauveur.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1. Douce France, c'est le programme jusqu'à 20h. Nous sommes en Seine-Maritime ce soir sur la côte d'Albâtre et on passe à table avec Marion Sauveur, le temps de déguster une spécialité du terroir français.
Bonsoir Marion.
Bonsoir.
On va se poser au bord de l'eau, on va déguster un poisson et vous nous avez amené,
oula,
entre Alissa et moi, ouais, une belle bête.
Oui, c'est un bar de ligne, c'est l'eau de gamme, hein, des bars qui permet aux poissons de ne pas rester coincés pendant des heures et des heures dans les filets des chaluts. Et donc ce bar remonte vivant sur le bateau sans aucune blessure ni ecchymose.
Ah, il est parfait.
Donc
ouais,
un bar pavillon France avec une jolie robe argentée.
Voilà, il a un corps allongé, deux nageoires dorsales, celle de dessus a quelques épines et une chair très fine et très peu d'arêtes, Thierry, ouais, pour ce bar. Hein.
Il fait quoi, un petit 70 cm ?
Oh, il est pas mal, ouais.
Ouais.
Une belle bête.
Le bar, on peut en manger toute l'année,
Marion ? Eh bien
pas,
non, puisqu'il faut bien qu'il se reproduise.
D'accord.
Ce bar. Il,
ouais,
se reproduit de janvier à mars. Et donc l'été, en ce moment, c'est l'idéal pour le consommer. Et justement, je vous emmène au Havre. Donc on repart d'Étretat.
Le Havre, c'est quoi, 28 km, c'est ça ?
28 km au sud, bah, effectivement. On prend la départementale 940 jusqu'au quartier Saint-François, où l'on retrouve le pêcheur David Hébert.
Bonsoir David Hébert.
Bonsoir.
Alors, vous travaillez à bord de l'Élise Louis, c'est le prénom de vos enfants, c'est ça,
c'est ça.
C'est ça. Votre bateau fait 8,50 m, il est jaune et bleu, je sais tout sur vous. Hein. Qu'est-ce que vous pêchez, vous, en ce moment, David ?
Du bar, comme vous l'avez cité,
ouais,
et homard, et un petit peu de crustacés, parce que là, c'est aussi la période du homard, et essentiellement, bar et sol.
Ça fait rêver, ça, dites donc. Vous vous levez à quelle heure le matin ?
Ouais.
À quelle heure vous posez vos filets ?
Bah, on se lève tôt parce qu'il fait jour tôt, parce que on dépose nos filets juste avant le jour,
ouais,
juste avant la levée du jour.
Ouais.
On part, il est 3h30, 4h, on dépose nos filets. Faut que 5h, 5h15, faut que tout soit posé.
D'accord.
Et on commence à les revirer vers 7h30, 8h, jusqu'à 10h.
Et d'accord, c'est là que vous découvrez si vous avez des brillants, comme vous les appelez, ces bars, des bars qu'on appelle d'ailleurs loups en Méditerranée.
C'est ça. Donc, on pose très peu de temps nos filets pour que, c'est comme vous dites, c'est soit il n'y a rien ou soit il y a du poisson, mais le peu qu'il y a, c'est vivant.
Ouais.
C'est surtout pour ça qu'on a cette technique de pêche-là, parce que ça a deux avantages, c'est d'avoir le produit vivant. Et deuxième avantage, c'est que s'il y a des petits poissons qui ne font pas la taille, ils sont aussi vivants et ça nous permet de les remettre à l'eau. Mmh.
David, comment on reconnaît chez le poissonnier, ça c'est important pour nous, que le poisson est bien frais ?
Bah, les yeux, les ouïes et la couleur du poisson. Hein. Comme je dis, s'il est bien brillant, les yeux bien brillants, les ouïes toutes rouges, il n'y a pas de souci. Hein.
Mmh. Le bar, c'est bon.
C'est très bon.
Vous n'allez pas me dire le contraire. Vous le cuisinez comment, vous ?
Ah bah, il y a plusieurs techniques. Moi, en général, je lève les filets, je poêle ça tout naturellement, voilà, comme un steak. Et puis... Et comme je suis normand, bah forcément avec un petit filet de crème.
Ouais, c'est
obligé.
C'est important.
Mais sinon, en papillote, au barbecue, avec un petit filet d'olive, c'est, ouais, magnifique. Et, ou en sel, quoi. Si vous avez un petit bar en sel, c'est pas mal.
Le bar, le goût est assez fort. Hein.
Le goût est assez fort, c'est vrai. Mais quand il est saigné ou à la rigueur, avec la méthode équichémée comme pratique Jean-Luc, vous avez plus goût fort du bar parce que justement, il a plus le sang mort qui retient en lui. Et donc, la chair n'a pas le contact avec le sang. Et donc, le goût du bar est complètement changé.
Merci.
Merci,
David. Et ça, c'est des techniques pratiques.
Allez vite vous coucher, David, hein, parce que demain, le réveil va sonner de bonheur.
Et on retrouve la pêche de David Hébert au marché aux poissons, c'est au quai de l'île au Havre.
Marion, on reprend la route, allez.
Oui, on va pas très loin, 20 minutes à pied justement, et on s'arrête au restaurant gastronomique du chef 2 étoiles, Jean-Luc Tartarin. Jean-Luc, dont nous parlait David, et qui s'inspire de la pêche du jour, donc de David, pour construire sa
carte. Et bonsoir Jean-Luc Tartarin.
Bonsoir.
En ce moment, on peut déguster un bar poché dans l'huile d'olive.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous comment vous faites ça.
Vous êtes bien renseigné.
Vous avez vu. Ça donne faim, allez-y.
Le bar poché à l'huile d'olive, en fait, c'est ce que David disait tout à l'heure. Première technique, en fait, c'est d'avoir du bar vivant. je vous explique après pourquoi, d'avoir du bar vivant et la meilleure méthode, alors pour moi, c'est la méthode japonaise Ikejime. Pourquoi ? Parce que bon, ben, les Japonais, de toute façon, ont l'habitude de manger du poisson cru, donc ils font super attention à toutes les toxines du sang qui remontent dans les chairs. Ouais. Avec cette technique-là, qui est plutôt un rituel, en fait. On fait une mort cérébrale avant de faire une mort cardiaque. Ouais. Voilà.
Donc, il n'y a pas de stress pour le poisson, il n'y a pas
de stress. Il n'y a pas de stress, il y a beaucoup moins de stress que la technique normale.
Bien sûr, voilà. Ouais, d'accord.
Moi, c'est une technique que j'ai appris il y a 5 ou 6 ans par un Japonais. J'ai un ami restaurateur qui la pratique. On a révisé ensemble nos copies pour être vraiment au point.
D'accord.
Et depuis, je fais ça. De toute façon, aussitôt que je peux le faire aussi bien sur du bar, sur du turbo, etc., j'hésite pas.
Jean-Luc, on peut excuser le bar à la plancha ?
C'est ce que vous faites, d'ailleurs. Vous le terminez comme ça.
Moi, je le poche. Là, je suis sur une recette où je le poche parce que justement, j'utilise cette technique-là, j'ai une chair de poisson qui est à la fois très tendre et croquante. Je garde le croquant là du bar parce que c'est un poisson, je dirais, c'est un guerrier le bar, donc c'est un poisson qui est très très musclé. Mmh. Donc, on n'aura jamais une chair hyper fondante. Voilà, vu que j'ai un pochage qui est à
54 degrés,
ouais. Ouais, 54 degrés exactement, sur des filets qui sont prélevés, des portions qui sont prélevées dans des filets qui font sur des barres de 2,5 kg, 3 kg, je suis à peu près à 10 minutes, j'ai ce fameux pochage et au moment de l'envoi, je le snack vraiment sur la peau pour remonter ma température tout doucement. Mmh. Et du fait que je l'ai poché avant dans l'huile d'olive, ma peau devient hyper croustillante.
Jean-Luc, rapidement, vous servez ça avec quoi alors ?
Ben en ce moment, on a normalement un peu de soleil. Je dirais que quand il y a un peu de soleil en Normandie, on pense un peu plus sud que Normandie. Donc on va le travailler là avec un aioli. Ouais. J'ai un dérivé de la bouillabaisse que nous on appelle chez nous du côté de Dieppe, la côte Riatte. Donc c'est avec des poissons différents, mais on a un jus de base qui est hyper concentré. Ouais. Et je mets tous les légumes de saison que j'ai en ce moment au jardin avec du basilic. Parfait. Je mets même un petit peu de parmesan aussi dessus sur mes légumes au dernier moment.
Merci beaucoup. Voilà. Merci Jean-Luc Tartare. On déguste votre bar poché à l'huile d'olive dans votre restaurant au Havre. Donc Marion, on peut aussi le cuisiner le bar tout simplement grillé. Hein.
Oui, plancha, barbecue, pas besoin de les cailler. Il faut juste le vider. Gros sel, des épices, des herbes fraîches, un petit peu d'huile d'olive. Et puis on vérifie qu'il est cuit quand le couteau s'enfonce.
Voilà, parfait. Merci beaucoup Marion Sauveur. On vous retrouve bien sûr demain matin dans la matinale de Pierre de Villeneuve. À 6h56 et 8h42 avec un nouveau produit.
Oui, l'Airos de Lautrec, vous verrez, il est très doux et sucré à la fois.
À demain Marion. Allez, dans un instant, musique avec Émilie Mazoyer. C'est tout l'été sur Europe 1 avec des concerts, des lives. Que du bon ce soir, Thomas Dutronc et Amy Winehouse à Londres 2007. Émilie, dans quelques instants sur l'antenne d'Europe 1 avec beaucoup de plaisir. Merci Anissa.
Merci à vous Thierry, à demain.
À demain dans un instant, toute l'info à 20h. Demain, on se retrouve bien sûr dès 18h avec beaucoup de plaisir sur Europe 1 pour écouter bien sûr Le Monde Changer.
Europe 1, écoutez Le Monde Changer.